Olivier Jotzi et je suis le directeur de la Dire Massif Central.
Et malgré cet effort financier, on sait aujourd'hui que les évolutions climatiques ne vont pas nous aider à entretenir ou à conserver notre patrimoine en bon état. On a des cycles de gel, dégel qui sont plus importants, on a des phénomènes météo qui sont plus intenses, même s'ils sont plus courts. Et ça participe à dégrader le réseau. Donc on a un véritable challenge à relever là, pour les prochaines années, pour faire en sorte qu'on puisse entretenir de bonne façon ce réseau. Et je veux dire que on a constitué là aussi une équipe au district localement, qui est de très très bonne qualité et dont je suis très fier. Donc voilà, je les remercie par avance. Et ils font vraiment un travail de grande qualité avec les entreprises qui nous accompagnent pour réaliser ces chantiers qui sont vraiment essentiels. Voilà, alors vous allez voir que c'est des chantiers quand même qui sont très techniques. Et effectivement, on va avoir besoin dans les années qui viennent de compétences pour continuer à pouvoir les faire, ces chantiers. J'espère que on a tous, que ce soit les entreprises ou nous, des difficultés à conserver des expertises sur ces sujets. Mais je suis plutôt confiant et on va y arriver. En tout cas, aujourd'hui, on va pouvoir voir un beau chantier et je vais laisser la parole à mes collègues qui vont vous présenter dans le détail ce qu'on va voir ensuite sur le terrain. Voilà, je vous remercie.
Je m'appelle Frédéric Marty, je suis adjoint au chef de district de la Dire Massif Central à Clermont-l'Hérault.
Vous ferez une présentation des travaux engagés en 2025 qui concernent les deux ouvrages en cours. On pourra répondre à vos questions si vous en avez. Et un petit film que j'ai réalisé là ces derniers jours sur la sécurisation du chantier qui est à notre sens impérative. Elle nous expliquera pourquoi. L'ouvrage qui était le plus coton, entre guillemets, c'était la Marguerite Est,
oui.
Qui avait des glissières de sécurité pour véhicules légers des années 80. Et on a remplacé ça par des grosses glissières aux normes pour retenir un bus et voir un camion de 15 tonnes.
Et là, il n'y a pas le besoin sur cet ouvrage-là.
Parce que là, c'est vraiment des glissières lourdes des années 80. Et
d'accord.
Ça s'appelle des BM4 qui retiennent suffisamment. Et après, on n'était pas parti, après, si on voulait se remettre aux normes actuelles, on était parti sur une durée de travaux qui était pas doublée, mais au moins 50% de plus de temps en plus.
D'accord, merci.
Alors, je vous présente les travaux, donc inutile de revenir sur le fait que c'est dans le méandre de la Lergue, hein, juste à côté. Ça concerne trois communes, hein, le Bosque, Lacoste et Serras. Alors ces ouvrages, si on fait quelques petites recherches, parce que moi j'aime bien retourner dans le passé, mais on voit un orthophoto en 1979, la construction des piles. Et en 1980, en fait, on voit ce fameux triangle de Serras, parce qu'on est nombreux à connaître cet endroit, avec les ponts tout neufs à l'époque, où il y avait juste une circulation en double sens. Pareil, j'ai retrouvé ça dans un vieux magazine de la DDE. Des belles choses à l'époque. Un beau magazine, hein, voilà les ouvrages tout neufs de 1980. Alors, pour faire simple, en 2018, donc j'étais aussi à l'initiative avec la maîtrise d'ouvrage de la Dire Massif Central, on a décidé de remettre à niveau un ensemble de 6 ouvrages qui étaient mal notés selon l'instruction technique de la surveillance des ouvrages d'art, j'en parlerai après. Donc on a décidé de lancer des études et des diagnostics sur l'ensemble des ouvrages, mais on s'est dit comme il y a 6 ouvrages, on ne pourra pas les traiter tous en même temps, il va falloir choisir. Et donc on a décidé, en fonction des éléments d'entrée, de commencer par les plus simples, ceux de 1990. On disposait de plans, suffisamment de données. C'était la phase numéro 1. C'était la Lergue 1 et 2 Est et la Marguerite Ouest. Ensuite, comme on avait aussi des données sur la Marguerite Est, on a décidé de faire une seconde phase. Mais comme c'était un ouvrage particulier avec 90 points de avérinés, il fallait se concentrer que sur cet ouvrage. Et comme il y avait 6 ouvrages, il n'en restait plus que 2. Il restait les 2 ouvrages initiaux de 1980, les 2 Lergue 1 et 2 Ouest en ce moment, qui ont fait l'objet de nombreux diagnostics. Et il fallait plus de temps pour considérer les études et réaliser un projet de réparation d'ouvrages d'art. Donc, comme le disait Véronique Vissili qui a parlé dans le premier film, Ben, la dire Massif Central, on s'est lancé dans une politique de suivi et de maintenance presque par anticipation, parce que, comme disait Véronique, dans le film, on préfère payer 10 euros maintenant que 100 euros d'impôts dans 10 ans. Parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. Et on verra tout à l'heure que l'ouvrage méritait d'être traité urgemment. On est arrivé au bon moment. Donc, la problématique de l'ensemble de ces basculements, parce que je reviens vers l'exploitation, c'est que l'ancienneté des ouvrages, pour la plupart non vêtus de bossage pour les vériner, c'est-à-dire qu'à l'époque, on n'a pas pensé de se dire « on va remplacer les appareils d'appui, on va faire un entretien, une maintenance, une réparation, on va prévoir pour mettre des vérins aux bons endroits pour pouvoir le lever dans 40 ans ». Ça n'a pas été fait. Et c'est ce qui implique qu'on doit travailler sur ces ouvrages en basculement, hors circulation. Parce qu'on crée de nouveaux éléments de structure pour vériner, et donc on n'est pas certain, sous circulation, que l'ouvrage puisse, je dirais, tenir. J'essaie de vulgariser. Donc on est obligé de travailler en basculement. Donc, je fais un petit topo rapide sur les trois phases. Donc en orange, en 2020, on a traité l'ergue 2, 1 et 2 Est et la marguerite Ouest. Ensuite, en 2022, on a traité la phase 2, c'était la marguerite Est. Et maintenant, nous sommes sur les ouvrages verts, qui sont l'ergue 1 au nord-ouest, et l'ergue 2 au sud-ouest. Voilà.
Hussein Bourgi, sénateur de l'Hérault.
Je voulais remercier monsieur le sous-préfet, vous remercier vous tous et vous toutes d'avoir organisé cette réunion. Je suis désolé, en fait, je vais poser des questions très terre-à-terre, mais vraiment très terre-à-terre, parce que la dernière fois où vous avez fait des travaux sur cette voie de route, j'ai été sollicité par plusieurs maires, parce que malgré tous les efforts que vous avez faits, il y a eu vraisemblablement des carences au niveau de la communication. Donc, je vais tirer les expériences et les leçons du passé pour vous faire quelques suggestions. Je ne compte plus les appels téléphoniques que j'ai reçus du maire du Bosc et de la maire d'Arboras. Je cite à dessein leur nom, puisqu'effectivement, il y avait des bretelles et le défaut de signalisation a fait que beaucoup de véhicules se sont retrouvés au milieu de ces villages, dans des rues et dans des ruelles et dans des impasses, d'Arboras en particulier, et tous les week-ends, Madame le maire d'Arboras et son équipe municipale a été mobilisée dans la commune pour orienter les gens, disant surtout ne passez pas par là, allez de l'autre côté. Donc moi, et donc ce qui m'avait conduit à l'époque à vous mettre en cause, la direction du Massif Central, à écrire un courrier à la première ministre Elisabeth Borne en disant qu'en fait, on ne pouvait pas nous imposer les travaux de cette nature-là, de cette ampleur-là, qui généraient autant de nuisances, sans prendre le soin de réunir les élus, de concerter les élus. Et donc, je remercie le sous-préfet de l'Odève, parce que moi, j'ai reçu des appels téléphoniques, il en a reçu quelques-uns aussi. Et quand vous recevez des appels téléphoniques de maires, d'adjoints aux maires, de conseillers municipaux, ou parfois qui appellent d'autres communes pour dire « est-ce qu'il n'y a pas des tracteurs qui peuvent venir nous aider à sortir une voiture qui s'est embourbée, qui a été dans un endroit où elle n'avait pas à aller ?» C'est qu'il y a eu un déficit de communication de votre part à l'égard des maires. Donc j'oublie le passé et je me tourne vers ce qui est en train de se produire sur le territoire. Moi, je voulais vous remercier pour cette réunion. D'abord, réunion d'information, réunion d'échange. Deuxième chose, la sécurité, c'est la priorité numéro un pour tout le monde. Troisième chose, 1 500 000 euros de budget, c'est de l'emploi. Et donc, aujourd'hui, nous avons besoin d'emploi dans la filière des travaux publics. Nous avons besoin d'emploi dans la filière du BTP. Donc, ces 1 500 000 euros sont les bienvenus. Lorsqu'on peut allier à la fois la sécurité et le développement économique et le soutien aux entreprises de travaux publics, j'applaudis les deux mains. J'ai deux suggestions à vous faire. La première, il faudrait qu'il y ait une astreinte. Avec ce numéro de téléphone de l'astreinte, c'est-à-dire quelqu'un qui est joignable la semaine, le week-end, les jours fériés, pour que ce numéro d'astreinte soit communiqué au maire du périmètre concerné. Ça n'est pas normal que le maire ou l'adjoint au maire d'astreinte, parce qu'il y a des maires qui partent en vacances aussi, se retrouve à appeler le sénateur, qui va appeler le sous-préfet ou qui va appeler le préfet pour résoudre ce problème. Donc je vous suggère de faire un numéro d'astreinte, que ce ne soit pas le numéro de M. Marty, parce que M. Marty a droit aussi de partir en vacances ou de souffler. Donc il puisse y avoir un numéro et qu'on identifie jour après jour qui est l'ingénieur ou l'agent d'astreinte. J'ai travaillé à la mairie de Montpellier, il y avait une astreinte pour les élus, il y avait une astreinte pour les cadres. Et chacun se passait le numéro de téléphone chaque semaine. Donc un, la question des astreintes. Deux, ne vous contentez pas à faire de la communication et à mettre des panneaux de signalisation, même si vous passez tous les jours, juste aux abords du chantier. Parce qu'un panneau de signalisation qui s'envole ou qui est arraché, ben les gens vont aller dans les villages. Donc il faut que vous ayez une vision du périmètre d'intervention beaucoup plus large que celui que vous avez aujourd'hui. Donc c'est deux suggestions que je vous fais, mais à votre disposition pour avancer avec vous, parce que tout le monde s'accorde à dire que ces travaux sont utiles, sont importants, mais il faut que ces travaux se fassent d'abord dans la sécurité de vos agents, dans la sécurité des entreprises qui interviennent sur ce territoire, mais il faut aussi penser à la sécurité des habitants de ces petits villages, je le recite, Le Bosc et Arboras, qui ont vécu un véritable enfer il y a 2 ans. Merci.
Nous avons bien pris en compte toutes vos préconisations. Pour vous rassurer sur la mise en place d'une astreinte, nous avons en effet un dispositif d'astreinte hein, qui est surtout renforcé en période de travaux, que nous tenons aussi à améliorer et à pouvoir diffuser, mais nous avons vraiment un dispositif qui est en alerte. Alors, reste à savoir si bon, on pourrait l'améliorer en portant connaissance de tout le monde, mais c'est quelque chose qui est très, très, très vraiment important à nos yeux. Concernant la communication, on peut toujours améliorer ce qui est fait. Et c'est ce qu'on va entreprendre aussi, c'est qu'on poursuive ce travail d'amélioration, de porter à la connaissance de tous ces travaux, les suggestions, des réunions d'avant-travaux, hein, des cafés chantiers qu'on a mis en œuvre depuis quelques temps et qu'on va encore multiplier et améliorer.
L'idée, peut-être, pour reprendre l'idée de l'astreinte, ça serait peut-être dans un premier temps dans le dossier de presse. En fait, peut-être de faire un dossier de presse spécial collectivité, mais pas pour le grand public, en donnant les bons numéros hein, avec dans un document déjà que tout le monde pourrait.
Oui, je pense que on a effectivement une organisation d'astreinte qui d'ailleurs assez.
Bonjour, Monsieur Héroussi Anas, ingénieur travaux de l'entreprise Fraissinet, qui s'occupe des travaux sur les deux ouvrages nord et sud de la Larque ouest sur la 75.
Là, en nord de Lyon, là où tout à l'heure mon directeur expliquait qu'on avait une usine, en fait, on a un dépôt de matériel là-bas pour tout le monde, Fraissinet International, qui alimente après d'autres usines, d'autres dépôts dans tout le monde. Après, on a notre usine à nous, FTC, Fraissinet Port de Compagnie.
Il fabrique en fait des appareils d'appui, les barres, les câbles.
Donc là, en fait, ici, si vous voulez vous approcher, ici on imagine la poutre existante, le nouvel appareil d'appui et une plaque. Et cette plaque, avant de recréer le bossage inférieur, elle est plaquée à l'aide de. C'est quoi? C'est des tiges.
C'est des tiges vitesse.
Des tiges. Elle remonte l'appareil d'appui, elle se colle contre la surface de la poutre. Après on fait un coffrage. Et on vient injecter le coulis pour faire le bossage définitif.
Ça, les prises qui sont lentes ou non?
Non, c'est quand même rapide, mais il faut quand même, il y a des temps de décharge de quelques jours quand même.
En fait, à chaque coulage, on fait des éprouvettes. On casse une journée à 2 jours pour savoir si on a atteint la résistance qu'on souhaite, les 30 MPa. Et dès qu'on les atteint, on sait qu'on peut mettre en charge les appareils d'appui. Et normalement, théoriquement, on devrait les atteindre au bout de 2 jours.
L'entreprise, la semaine prochaine, sur chaque coulage, elle fait ses contrôles, des éprouvettes. Et nous, on a notre contrôle extérieur qui vient aussi et qui fait nos contrôles aussi. Et c'est des essais contradictoires, des contrôles contradictoires.
D'accord. C'est-à-dire que le dernier ouvrage, quand l'ouvrage sera terminé, celui au sud, hein, oui. Il faudra quand même attendre 5 jours même un peu plus.
Un peu moins, non.
Ouais, un peu moins, jours, ouais, mais jours. Moins. Ouais.
Mais comment vous soumettez à l'épreuve? Elle est destructible, l'épreuve,
oui,
sur l'éprouvette.
Oui.
Et vous vérifiez que vous êtes à 30 mégapascales.
Exactement. Ouais.
Bon.
Voilà pour les plaques. Là, ici, vous avez fait une véritable expo, là, c'est super. Ça, ce sont les vérins.
C'est les vérins qu'on pose sur le culé. En fait, par retour d'expérience, il y a un qui est parfait. Ça, c'est les vérins de secours qu'on a gardé. Si jamais on a une fuite hydraulique, si on a un vérin quelque part, on sait rapidement le changer et le mettre en place. Et pour chaque type de vérin qu'on a utilisé, on a essayé de mettre 17% de la quantité totale des vérins qu'on a utilisés en secours. Il y a des vérins sur lesquels on a gardé 5 vérins de secours parce qu'on a utilisé 80 vérins de ce type. D'autres, on a utilisé 10 ou 15 unités. On a gardé 3 ou 4 de secours pour cela.
Monsieur, 700 bars, hein, c'est ça?
Maximum, 700 bars. Nous, on,
pour... Monsieur le sous-préfet, bonjour.
Oui, bonjour.
Julie Chancel, Radio Pays d'Hérault.
Bonjour.
Bonjour. Vous avez l'air particulièrement intéressé par ce chantier de rénovation.
Bonjour. Moi, tout ce qui est technologique, technique...
Architecture aussi.
Architecture avant tout, évidemment. Mais tout ce qui permet en fait, de voir comment le progrès des années 60-70 est transformé aujourd'hui m'intéresse. Pourquoi? Parce que c'est des métiers qui sont passionnants, c'est des métiers de plein air, c'est des métiers qui touchent à tout, puis qui touchent à l'utilité publique, à l'utilité sociale. Je suis persuadé qu'il y a plein de choses à faire là-dedans. Puis avant ça, j'avais un métier. Je suis ingénieur mécanicien d'origine, donc je connais un tout. Je ne connais rien. Mais je m'intéresse à ces sujets-là. Et j'aime bien qu'on parle technique, j'aime bien qu'on parle technologie. Ici, on avait invité d'ailleurs des proviseurs. Ils n'ont pas pu venir. Pourquoi? Parce que j'aurais souhaité qu'ils distribuent l'information, que c'est des métiers d'avenir qui ne seront pas remplacés par l'intelligence artificielle. Où on est bien payé, j'insiste, où on est bien payé et où le temps passe vite et bien. Voilà. Enfin, je ne vais pas exagérer, il y a à chaque fois ses difficultés, mais c'est mieux que le boulot de sous-préfet.
Est-ce que c'est l'État qui prend en charge l'intégralité des travaux?
Oui, c'est l'État qui prend en charge intégralement, puisque c'est les travaux de correction qui sont nécessaires pour la sécurité des 30 à 40 années qui viennent. Voilà.
Et quel est le coût de ces...
On est à 850 millions d'euros. On a combien? Vous avez dit tout à l'heure le chiffre.
Par rapport à l'ensemble de la
globalité. Oui.
Alors pour ces travaux, c'est 1,5 million.
Ah oui, c'est ça.
Si on rajoute après 1 million de plus, 2,5 millions plus, on est à 5 millions sur l'ensemble de la globalité.
Sur les 4 ans?
Sur les 7 ans du projet, quoi, en fait. Voilà.
5 millions en totalité.
Merci.
Un peu plus pour les études.
Voilà.
Merci.